Alfred Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. La loi sur la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police a été votée au Parlement la semaine dernière. Parmi les grandes lignes de cette loi, on note notamment la prise en compte des dépenses sur les prestations du personnel, le matériel et équipement, ainsi que la réfection et la construction des édifices. Une fois promulguée, quel pourrait être l'impact de cette loi sur l'amélioration du travail de la police? Nous en parlons tout à l'heure avec l'honorable Mohamed Goulet, député national, membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale et général à la retraite. J.R. Lungembo, Nadine Foula, Titimputu, Guimanzango réalise cette émission que vous présente Pierrot et la Meiji sous la supervision de Nicole Ngaka. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Établie sur un plan quinquennal, cette loi qui a été votée par les deux chambres du Parlement vise, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, à apporter des innovations telles que la prise en compte des dépenses sur les prestations du personnel, le matériel et l'équipement, ainsi que la réfection et la construction des édifices pour y arriver. Réussir, bien sûr, la réforme de la police. La loi prévoit également une dotation budgétaire de près de 750 milliards de francs congolais. Quel serait pour vous l'impact de cette loi sur l'amélioration du travail de la police? Une fois la loi promulguée, nous en parlons avec vous. Il y a des auditeurs qui sont déjà en ligne. Nous allons voir notre invité tout à l'heure pour plus aller en loin et en large, n'est-ce pas, en ce qui concerne les contenus de cette loi. Arsène Etakubi, Théodore Mbujimayi. Mais nous avons aussi reçu de messages de nos auditeurs qui nous ont écrit à travers la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Eric Maguela Kindomba dit ceci: personne ne sans le savoir que la réforme de la police nationale ne date pas d'aujourd'hui. Mais à mon humble avis, je crois cette fois-ci qu'il y a une loi qui détermine toute la programmation. Cela va réussir. Et je m'avais déjà souhaité plein succès à la réforme de la police. Yves Kasongo, pourquoi cette loi ne fait-elle pas allusion à l'éducation? Je crois que cela a été déjà repris dans le débat que nous avions eu avec vous sur la réforme de la police. Il souhaiterait qu'on puisse aussi, dans cette dotation, pouvoir assez de moyens pour la formation de la police. C'est le même souci, c'est le souci d'Yves Kasongo qui dit ceci: il est à Goma et des fois le comportement de la police montre qu'il y a encore beaucoup de travail en ce qui concerne la formation. Merci beaucoup aux amis qui nous ont écrit à travers la page Facebook des Paroles aux auditeurs. On va revenir à vous, le temps d'écouter Arsène qui est à Kikuit dans la province de Bandundu. Bonjour Arsène.
Bonjour, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
C'est nous dégager.
Moi, mon nom de la vie, la loi a été votée, il y a même eu un budget mis en compte, mais le problème, le plus gros problème, c'est l'applicabilité de tout ce qu'on est en train de faire. Nous, Congolais, nous sommes spécialistes en loi, nous sommes spécialistes en projets, mais des projets qui ne se sont pas réalisés. C'est l'argent qui est destiné à autre chose finit par être détourné. Mais moi, de ma façon, je trouve que quand quelqu'un est bien instruit, bien formé, il ne peut apporter que de bons résultats. Parce que la police, c'est un corps qui doit avoir de la discipline. Comme c'est un corps d'honneur, si on fait une bonne instruction, une bonne formation, une bonne éducation, je crois que d'ici les 5 ans, nous pouvons avoir une police à laquelle on peut faire confiance. Mais si aujourd'hui, nous le faisons juste pour plaire, et faire voir que voilà, nous sommes en train de travailler, le Parlement est en train de voter des lois, je crois que nous irons vers l'échec. parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de lois qui ont été votées. Nous avons eu, par exemple, on a voté sur un budget il y a quelques années, la construction de 5 500 maisons à Kikwite et dans les environs, où c'est parti, où a été le suivi. Aujourd'hui, nous les regrettons, parce que personne ne les suit, personne ne les vérifie, même le Parlement aussi. Aujourd'hui, c'est la police. Nous avons besoin d'une police bien éduquée, bien formée, bien instruite. Les équipements doivent être conformes à la modernité. Les infrastructures, nous devons avoir des écoles capables et des instructeurs capables à nous donner une police à qui on peut faire confiance. Aujourd'hui, quand vous circulez, par exemple, vous voyez un homme en uniforme, on commence à craindre. Ou peut-être que ce sont ceux qui sont en train de tirer des coups de pistolet dans les oreilles des gens qui sont immenses. Ou peut-être que ce sont des assassins, ou peut-être que ce sont des vrais policiers. Parce que vu avec l'opération Kuluna, et l'opération du COFI, qu'on est en train de pronostiquer, est-ce que seulement ceux qu'on a arrêtés et ceux qu'on est en train de rechercher, mais il y a aussi dans la police, parce qu'on va déverser dans la police des mal éduqués, des mal instruits qui vont se cacher derrière l'uniforme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Il faut les éduquer, il faut les instruire, il faut les former. Alors, je ne peux souhaiter que ce qu'on est en train de parler, que ça ne se limite pas au niveau des paroles, que ça va jusqu'au niveau de la pratique pour qu'on puisse avoir de l'espoir dans 5 ans, une police correcte, être capable de nous défendre et défendre l'honneur de la nation au niveau international, dans les standards internationaux.
Merci, merci beaucoup Ersène. Vous avez insisté sur le fait qu'on doit vraiment appliquer, dès que la loi sera promulguée, il faut qu'elle soit vraiment appliquée, parce qu'il y a un problème, nous avons beaucoup de textes qui arrivent, qu'on ne puisse pas vraiment appliquer, mais vous insistez que les budgets soient vraiment utilisés pour cette réforme de la police, que ce soit au niveau de l'instruction, de la formation, de la professionnalisation de la police, mais aussi des dotations en équipement, pour qu'on ait vraiment une police capable de défendre et de représenter la RDC. Merci beaucoup, Ersène. Théodore, vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Vous pensez qu'une fois promulguée cette loi qui prévoit bien sûr la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police pourra avoir vraiment de l'impact sur l'amélioration du travail de la police dans notre pays?
Oui, merci pour la parole. Pour moi, je crois très bien que cette loi promulguée va changer beaucoup de choses s'il y a volonté. Si la volonté politique est là, on doit changer beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, la police que nous rencontrons sur terrain fait autre chose, parce que nous avons la police qui est mise dans des barrières, il y a la police économique, il y a la police d'intervention, il y a la police des roulages, il y a la police dans plusieurs domaines. Alors, il fallait des suivis de la part des autorités policières, comme par exemple... Il y a des patrouilles nocturnes. Dans les patrouilles nocturnes, il faut organiser que ces choses soient, dans cette réforme, modernisées. Parce que là, se fait-il aujourd'hui, la police qui travaille pour le service nocturne, pour les patrouilles, ils passent de 19h à 20h. 20h, 21h, 22h, ils arrêtent les gens, par exemple, dans des rues où il n'y a pas d'électricité, par exemple. Alors, ils fouillent les gens, ils prennent les appareils, même l'argent. Tout ça, bon, c'est ce qui n'est pas correct. On doit changer. Il y a la police qu'on utilise dans des stades de football. Comment ils doivent se comporter vis-à-vis des sportifs? Tout cela, on doit réformer. La police des roulages, par exemple, ils prennent l'argent au vu des autorités. Ils mettent en poche. Tout ça, c'est vu. On doit changer. Quand il y a réforme, on doit appliquer cela. C'est ainsi que nous disons, nous demandons que les autorités policières puissent suivre cette applicabilité de la loi. S'ils ne le font pas, il y a des sanctions qui doivent suivre. Et c'est aussi, nous disons, les politiciens, par exemple. Il y a des politiciens qui utilisent les policiers à leur fin politique. Ce qui n'est pas correct. Parce qu'un politicien, s'il fait son meeting ou quoi, quelque chose de pareil, il ne doit pas utiliser la police. Parce que la police est au service de la nation. Mais quand on utilise dans des fins politiques, ce qui n'est pas correct. Et nous demandons que les choses doivent changer pour harmoniser et mettre cette réforme en applicabilité correcte.
Merci beaucoup, Théodore. Nous sommes en train de tenter de joindre là notre invité, à l'honorable Mohamed Boulay, avec qui on devait être tout à l'heure dans cette émission, mais on a un petit souci avec sa ligne téléphonique. Tout à l'heure, on va voir pour avoir plus aussi d'autres précisions. En tant que député national, membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, on va voir. Mais votre souci, c'est qu'il faut que cette loi, comme elle a été déjà votée, qu'elle soit promulguée et qu'elle accompagne la réforme de la police, qu'on puisse avoir vraiment une police qui répondent vraiment aux besoins de la population, que ce soit dans la formation, mais qui est aussi un suivi de la part des autorités pour savoir les budgets qui seront alloués à cette réforme, si les équipements seront achetés, si aussi les infrastructures seront améliorées pour s'adapter aux besoins à la formation de la police. C'est votre souci, Théodore. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Mbujimaï au Kasaï oriental. Nous retournons aussi à Kinshasa, dans la capitale. Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Piero et Lamégé, bonjour à tous les auditeurs de la radio Pacifique.
Nous avons pensé, parce que beaucoup de personnes ont pensé qu'il fallait quand même qu'il y ait des textes juridiques qui doivent accompagner, n'est-ce pas, la réforme de la police, parmi lesquels cette loi qui programme la mise en œuvre. Et les uns et les autres pensent qu'une fois améliorée et promulguée, elle peut contribuer à améliorer cette réforme. Mais vous avez suivi les compatriotes, c'est Théodore de Mbujima qui a dit, avoir la loi ça ne suffit pas, mais il faut aussi la volonté politique de pouvoir exécuter, de pouvoir mettre cette loi en application. Qu'est-ce que vous pouvez commenter par rapport à ça, Omar?
Merci, Piro, pour le verbe que vous m'avez dit, tout en saluant les interventions pertinentes de maîtres et de chercheurs, notamment Théodore. Je tiens à féliciter le gouvernement et le Parlement pour cette belle initiative qui vote de cette loi. Et comme je le pense, que l'impact sera vraiment visible dans la mesure où cette loi permettra au gouvernement de garantir la sécurité de la population. Elle permettra également de renforcer les capacités des policiers. Uh-huh. Mais qu'à cela ne tienne, M. Bureau, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour l'arrivée heureuse de cette loi. Notamment, comme l'a dit Théodore, la volonté politique de la part de ceux qui gouvernent. Michel Alliot, un juriste, disait « La loi n'est pas ce que disent les textes, mais ce qu'en font les acteurs. La beauté d'une loi ne réside pas dans la beauté des écritures, mais dans la beauté dans l'application. » Donc nous invoquons là les volontés politiques, n'est-ce pas, de ceux qui gouvernent, pour que ça ne puisse pas se limiter à s'appeler des bonnes intentions, mais que ça puisse plutôt se concrétiser pour le bien de la population. Les deux, je pense qu'il faudrait penser aussi à la capacité d'organisation. Un projet pour bien être réalisé exige de bons animateurs. Si dans chaque structure de police on pourrait mettre des bons leaders, je crois qu'on aura aussi fait œuvre utile. Aussi, M. Perrault, je voudrais faire aussi allusion au recrutement des policiers. À la Deuxième République, pour être policier, il y avait un critérium qui était placé. Aujourd'hui, c'est comme l'expression qu'on prend tout le monde. La Constitution exige qu'il soit au moins diplômé d'État, qu'il ait physiquement stable et puis qu'il ait une taille considérée. Alors, si on peut aussi tenir compte de ces critères, je crois, le moyen ne suffit pas. Encore faut-il des hommes qu'on doit recruter soient à mesure d'atteindre. Et enfin, je finis par là. Nous remarquons aujourd'hui, M. Pirou, beaucoup d'incohérences dans les chefs des policiers. Ils arrêtent des gens parce qu'ils ont rendu des gens enceintes. Ils arrêtent des gens pour des dettes, les policiers sont là et ils agissent en marge de la loi. À part la loi qui doit être votée, il faudra aussi organiser des formations, dire aux policiers de façon générale que dit la loi par rapport à telle infraction. Je crois que l'ensemble de ces mesures pourront accompagner cette loi et nous pourrons, n'est-ce pas, atteindre la sécurité. Tant soit peu pour garantir la population.
Merci beaucoup, Omar. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, il n'y a pas seulement cette loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Vous savez qu'il y a d'abord la loi organique même qui organise. Oui, oui. La police, mais il y a aussi la loi sur les statuts de personnel de carrière de la police. Toutes ces lois visent effectivement à déterminer qui doit être dans la police, qui doit être recruté, comment il doit travailler, jusqu'à quel âge, tout ça, ça a été déterminé. Mais vous avez beaucoup insisté sur les mesures qui doivent accompagner. Parce que la formation demande les moyens, c'est pour cela qu'il y a cette dotation, n'est-ce pas, dans la réforme, il faut de moyens. Et là, on peut rejoindre aussi Arsène qui a pensé qu'il faut un suivi pour savoir si effectivement les fonds qui seront alloués pour permettre à ce que cette réforme de la police puisse avoir lieu soit utilisée réellement pour le travail. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Omar. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous avons Néhémy qui nous appelle de Inga dans la province de Bakongo et Marcel qui est à Kisangani. Mais nous avons aussi le message de Bruno Kalala qui est à Kananga. Pour lui, il pense que c'est très bien pour avoir qu'on ait cette loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Il faudrait qu'elle accompagne toutes les autres mesures qui ont été prises pour permettre à ce qu'il y ait un budget conséquent qui permette à la réussite de cette réforme. C'est le point de vue de Bruno Kalala de Kananga. Hussein Kaiko qui est à Bukavu dit ceci: on peut autant de fois former, réformer, avoir des lois, mais s'il n'y a pas la volonté, sinon on risque de commencer à violer la même loi et détourner même les fonds alloués pour cette réforme. Mais il faudrait qu'on puisse beaucoup plus avancer et lutter contre la corruption pour que la loi puisse avoir un effet sur la réforme de la police. Merci beaucoup, Ousseni. Vous êtes à Bukavu. Néhémie, vous êtes à Inga, dans la province de Bakongo. Bonjour. Néhémie, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, je salue les auditeurs de la radio Capi et toutes les familles de la République.
Merci beaucoup, Néhémie. Vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, quel serait l'impact de cette loi sur l'amélioration du travail de la police et dans sa réforme?
Bon, je crois que je vais peut-être dire une chose que les autres ont omis de dire, parce qu'ils ont presque tout dit sur l'importance de cette loi, mais quant à ce qui me concerne, je pense que ce qui peut être nécessaire aujourd'hui, comme on dit souvent qu'une vente se crée à point d'oreille, le social c'est quelque chose qui devait être privilégié. Parce qu'aujourd'hui nous voyons même l'opération Likofi qui se déroule à Kinshasa, nous constatons qu'il y a même des policiers qu'on commence à arrêter parce qu'eux aussi sont trempés dans le ravissement des objets des concitoyens, alors que c'était qui, en principe, était censé de protéger cette population. Cela dit que ces policiers ne sont pas bien payés. Ce qui peut être aussi nécessaire avant d'appliquer, c'est comment dirais-je, la loi sera promulguée pour l'achat, le budget sera doté pour qu'on achète des équipements, c'est bien. Mais qu'est-ce que les législateurs ont pensé et les gouvernants concernant la rémunération des policiers? Parce qu'il faut d'abord bien les rémunérer avant qu'on puisse avoir un résultat escompté quant à ce qui concerne leurs prestations. Parce qu'on peut bel et bien les acheter des équipements, ainsi de suite. Mais si ils ne sont pas bien rémunérés, je crois qu'on n'aura pas un bon résultat sur le travail de nos policiers. Je crois que c'est ça ma préoccupation et c'est ça, je crois aussi que ce que nous pouvons attendre de cette police, si on les rémunère bien, ils auront aussi à donner un bon résultat. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans notre police, nous n'avons pas déjà bien formé et ils ont aussi la volonté de servir la nation comme il se doit, mais malheureusement, ce qui fait défaut, c'est par rapport à la rémunération qu'ils ont, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Donc, je crois que c'est ça ma participation à l'émission. Mmh. Mais quant à ce qui concerne la loi, c'est une bonne chose d'avoir des équipements et que cette police soit une police comme la police des autres pays, c'est bien, mais ce qui est plus important, c'est penser au social de la police. Et c'est ce qui peut être nécessaire pour que nous puissions avoir des bons résultats concernant la population qui est, et la police qui est censée à protéger la population et leur bien.
Merci beaucoup, Néhémie. Et d'ailleurs, comme je venais de le dire, le processus de réforme a été lancé, accompagné. Il y a eu deux autres textes précédents, comme la loi organique portant l'organisation de la police et la loi sur les statuts du personnel de carrière de la police. Ces deux lois, d'ailleurs, nous avions eu encore le débat avec vous autour de ces deux textes qui ont déterminé effectivement, en ce qui concerne la rémunération, tout ce qu'il faut pour l'amélioration du social, mais vous souhaitez que cela accompagne aussi, soit prise en compte dans la réforme, hein, pour que, au-delà du fait que la réforme puisse permettre des dotations et des équipements, mais qu'il y ait aussi les conditions de vie qui doivent être améliorées. Merci beaucoup. Il y a Élisée Tiroua qui nous a écrit des Bukavu. Lui, il insiste beaucoup plus sur l'application. Il dit le fait qu'on puisse voter la loi, c'est bien, mais une fois promulguée, si elle peut être mise en application, c'est plus mieux. Et d'ailleurs, Moïndo Luc Kambéré, qui nous a écrit des bénis, lui demande au gouvernement, une fois la loi promulguée, et que les dotations soient données pour la réforme de la police, qu'il y ait des mécanismes de suivi et de contrôle pour éviter que les budgets, je parlais des près de 750 milliards de francs congolais pour ce programme-là, que ces budgets ne puissent pas être détournés pour enrichir d'autres personnes. Merci beaucoup, Moïndo. Nous avons Marcel qui est à Kisangani, en province orientale. Bonjour, Marcel. Marcel, vous êtes avec nous, bonjour. On a des petits soucis avec Marcel qui est à Kisangani. Nous allons à Lubumbashi. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour aussi à toute personne qui prête l'oreille à cette émission, à cet instant vraiment propice.
Voilà, nous, oui, ensemble, nous dégageons les pistes des solutions, mais aussi les mesures d'accompagnement pour que, effectivement, cette loi qui a été votée, qui sera bientôt prochainement promulguée, puisse avoir vraiment de l'impact sur l'amélioration du travail de la police. Qu'est-ce qui doit être fait, Jean-Claude?
Oui, justement, Pierrot, moi je pense, j'aimerais d'abord relever quelque chose. Je pense que les amis l'ont dit, donc ils ont presque tout dit. Mais ce que je voudrais relever, c'est le point saillant. Nous savons tous que notre police est peut-être la plus pauvre, n'est-ce pas, de cette terre, du monde, si je n'exagère pas. Donc il y a tout, on découvre tout dans la police. Moi je pense qu'il faut faire, la loi sera promulguée bien sûr, mais il faudrait vraiment deux mesures d'encadrement. Premièrement, nous savons très bien qu'on peut bien voter les budgets, tout ça, est-ce que on arrive à appliquer cela. Donc il faut savoir que l'Assemblée essaie un peu de monter peut-être des commissions et des sous-commissions pour faire les suivis de cet argent, si réellement on va arriver à appliquer cela convenablement, puisque la police, comme nous le savons, c'est un corps de protection des civils. Donc c'est un service qui est c'est un corps qui est au service des civils. Donc si on doit vraiment considérer la police comme un dépotoir ou n'importe qui sans critère peut entrer à la police, donc on n'aura jamais des résultats exemptés. C'est pourquoi nous disons vraiment qu'il y ait vraiment un suivi vraiment minutieux à ces niveaux-là. On va voter bien sûr, mais qu'on fasse des commissions pour suivre l'applicabilité de cette loi Python. Et bien sûr, je n'étais pas au courant. Vous venez de dire qu'il y a deux lois hein, dans le cadre dans le sens de mettre un peu des limites dans le recrutement de policiers, bien sûr, c'est vraiment une très bonne chose, puisque on ne doit pas prendre n'importe qui dans la police. Mais j'insiste, monsieur Pierrot, qu'on mette vraiment de l'ordre. Et si on doit vraiment voter tout ce qu'on peut voter là, mais la réforme doit passer avant toute chose. Puisqu'on ne doit pas aujourd'hui allouer beaucoup, beaucoup d'argent à tout ce qu'on est en train de parler, mais sans la réforme. Nous sommes chaque jour avec la police. Des fois, il y a même d'autres policiers qui ne savent même pas écrire leur propre nom. C'est très compliqué. Et celui-là, vous pensez qu'il peut respecter que la loi. Aujourd'hui, on est en train de parler des couloumes, mais il y a beaucoup de couloumes qui se sont déversés dans la police. Vous passez aujourd'hui avec quelqu'un qui est en train, qui est Kadhafi, ne sais pas, cambiste, oui, il y a beaucoup d'intellectuels, mais il y a beaucoup de voyous que nous voyons à la cité, des chèques, et demain, vous les voyez en tenue. Et ce monsieur-là, vous pensez qu'il peut apporter quoi de consistant vraiment à ce pays, à la construction de ce pays? Voilà, donc, il faudrait vraiment que les autorités pensent sérieusement à la police, puisque c'est ce qui montre même au grand jour le poids de notre pays, la police, comme nous le voyons sur les autres cieux.
Voilà,
je pense que c'est peut-être ça.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Vous avez insisté sur la réforme, d'ailleurs, je l'ai dit. Si vous avez bien suivi notre introduction, effectivement, cette loi, c'est pour accompagner ce processus de réforme. Il faut une programmation, il faut un budget pour permettre à ce que la réforme puisse réussir. C'est pourquoi ce texte juridique doit accompagner cela. Merci aussi pour avoir reçu cette information qu'il y a d'autres textes juridiques qui ont été déjà votés et promulgués en ce qui concerne la professionnalisation de la police, hein, nous avons évoqué cela, mais vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'on puisse contrôler l'usage, hein, n'est-ce pas, de quelle manière le budget sera utilisé, le budget qui sera alloué à cette programmation de la réforme de la police, que le Parlement puisse contrôler et savoir que cela soit utilisé vraiment pour réussir à rendre la police professionnelle. Merci beaucoup, Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi. Nous allons rester dans la même ville avec Ismaël, mais en attendant, nous avons ce message de Alain Piana qui nous a écrit des Kananga au Kassa occidental. Cette loi est la bienvenue si sa mise en application est effective, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, que la loi nous permette de pouvoir réformer exactement la police et éviter toute cette confusion que nous avons parfois entre la police et l'armée. Merci beaucoup Alain Piana. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi et dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, Pierre et la Mèche.
Et vous avez suivi les compatriotes qui sont intervenus avant vous. Nombreux ont insisté sur la volonté de pouvoir appliquer la loi une fois promulguée pour qu'on puisse vraiment vivre l'effectivité de la réforme de la police et les contrôles aussi par rapport au budget qui sera alloué à ce travail. Et cela pourra avoir de l'impact sur le travail que la police doit nous rendre, nous, les bénéficiaires. Et pour vous, quel est votre point de vue par rapport à ce qui a été dit par les différents compatriotes autour de cette loi?
Vraiment, ils ont raison de dire ça. Et certainement, vous voyez, si on n'a pas la réforme, ça ne peut pas arriver à un point précieux. La police que nous avons aujourd'hui, nous avons connu des problèmes. On ne sait même pas comment distinguer, c'est ça la police et c'est ça le militaire. Il se peut qu'ils sont soit en divagation, soit ils sont en complicité avec le malfaiteur, soit c'est eux-mêmes qu'on trouve dans un genre de conditions.
Mm-hmm.
C'est ce que nous remarquons aujourd'hui en RDC. On n'a pas étudié, on n'a pas fait quoi que ce soit. Les derniers services dont nous devons entretenir, c'est quoi? C'est la police. Sinon, on devait, par exemple, pour exécuter tel ou tel service, il faut passer par les tests, après les tests, les examens, et on va diagnostiquer à savoir celui qui est compétent de faire ce service.
Mm-hmm.
Mais pourquoi au milieu policier, il n'y a pas l'éducation souvent? C'est un problème de l'éducation, c'est-à-dire l'éthique et le comportement et la moralité au sein de la République. Qu'est-ce qui se fait par exemple si vous trouvez un policier qui ramasse par exemple l'argent tombé? Ça ne montre pas. Si il a eu d'abord une éducation, ça fait d'abord aider la population. Le budget, pourquoi pas, par exemple, les salaires, bien que les salaires est minime. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. On ne peut pas diriger au-delà de ce que nous n'avons pas, tant que d'autres reçoivent le salaire minime. On peut s'efforcer d'abord d'aider le pays. Maintenant, nous cherchons à ce que la police soit premièrement éduquée. Qu'on ne compte pas seulement, parce que celui-ci est mon frère. Vous voyez, beaucoup de titres que nous avons dans la police, ce sont des gens moins instruits. Et pour cette raison, nous avons beaucoup de difficultés. On peut louer les budgets, payer un policier $500. Ça ne peut rien faire. Ils ont des guides. On va vous demander à quelqu'un qu'on paye, par exemple, $100. Mais que là, des guides doivent dire. Ça vient d'où? Il faut d'abord se demander, faire une rétrospection de la vie policière pour savoir réellement que nous ayons une population saine. Plutôt qu'être expolié par les gens, ce qu'on appelle les gens d'ordre social même, qui expolient même notre environnement, soit la population. En conclusion, je dis que la police passe d'abord par les études, qu'on le réforme. J'ai aussi des formations précises pour les policiers et leurs dirigeants. Sinon, là, on va avoir une bonne police, plutôt que de se baser seulement sur un salaire. Parce que bon, nous vivons dans un budget faible. Il faut accepter, il ne faut pas exiger au-delà de ce que nous n'avons pas et ce que nous ne pouvons pas supporter. Merci beaucoup et à tous les auditeurs de Radio Kati.
Merci Ismaël, vous avez beaucoup insisté sur la formation et l'instruction, que dans cette mise en œuvre de la réforme, qu'on puisse mettre l'accent sur l'éducation, l'instruction, l'éducation aussi. Vous avez insisté sur la moralité, cela doit accompagner le travail de la police. Vous avez peur, même si on pourra aujourd'hui payer beaucoup d'argent aux policiers, mais s'ils ne sont pas assez encadrés, formés, instruits, cela ne peut pas améliorer la qualité de leur travail, qu'au niveau de la loi qui programme effectivement cette réforme de la police, qu'on puisse beaucoup mettre l'accent sur la formation du personnel. Merci beaucoup Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Je crois bien, on ne sait pas encore qu'on puisse avoir notre invité de Malotte. On a eu des petits contretemps, mais il pourra être là pour pouvoir aussi compléter par rapport à ce qui a été dit par nos auditeurs. Nous avons Patient qui est à Lubumbashi, on reste dans la même ville. Patient, bonjour.
Bonjour Pierrot et le Meji, c'est Patient qui toque à Lubumbashi.
Et on vous écoute. Les uns et les autres ont pensé qu'il faut d'abord de la volonté politique pour accompagner la mise en application de cette loi. Il faut les contrôles, les suivis. Mais il y a aussi des priorités qu'il faudrait prendre en compte pour la programmation de cette réforme. Et nous allons revenir à vous, Patient. On va vous accorder la parole tout à l'heure là. Et je rappelle encore que nous parlons de cette loi sur la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. On va revenir tenir en vos patients, gardez la ligne, le temps d'accueillir notre invité. À quelques secondes après, on va revenir.
Parole aux auditeurs.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Voilà, nous sommes ensemble dans ce studio avec l'honorable député Mohamed Boulay, qui est aussi général à la retraite. Hein. Honorable, nous avons eu les auditeurs depuis le début de cette émission sur cette loi qui a été votée au Parlement, sur la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Et nous voulons voir ensemble avec eux, ils ont donné beaucoup d'idées pour voir comment cela peut avoir de l'impact sur l'amélioration de travail de la police, mais aussi la réussite de cette réforme. Est-ce qu'on peut avoir une idée générale de l'importance vraiment de cette loi dans l'accompagnement de ce travail de la réforme de la police?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mais avant toute chose, je voudrais saisir cette opportunité pour présenter une fois de plus mes condoléances les plus attristées aux frères et sœurs du Nord Kivu pour les massacres dont certains ont été victimes, particulièrement dans les territoires de Béni. Oui, cette loi de programmation militaire, c'est une loi pluriannuelle qui vient compléter l'arsenal juridique en ce qui concerne la réforme de la police nationale, parce que à son article 90, il était prévu que le gouvernement puisse soumettre au Parlement la loi de programmation, qui est une loi pouvant permettre notamment de réaliser les dépenses d'investissement et de fonctionnement relatives à la mise en œuvre de la réforme. Et donc, comme j'ai dit, cette loi, c'est une loi pluriannuelle qui couvre la période de 2014 jusqu'à 2017. Et je dois dire que la réforme de la police nationale congolaise a bel et bien déjà commencé depuis 2012, parce qu'il faut lui donner les moyens conséquents pour réaliser cela. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement a présenté cette loi et que nous avons examiné successivement dans nos deux chambres, mais au Sénat, étant entendu qu'on n'avait pas voté cette loi au même terme que nous, les deux bureaux ont constitué une commission mixte paritaire, et après que cette commission soit mise en place et les divergences ont été aplanies, voilà que le texte commun adopté par les deux chambres a été donc voté et envoyé, adopté et envoyé au président de la République pour la promulgation.
Mais quelles sont les priorités par rapport à ces moyens qu'il faut donner à la réforme au niveau de la loi? Qu'est-ce que sont les axes prioritaires?
Les axes prioritaires, vous savez, j'ai dit ici, il y a l'investissement et le fonctionnement, les acquisitions majeures des équipements. Et donc, cette loi donne donc la tranche pour un montant total de 750 396 689 410 francs congolais qui va couvrir tous ces besoins pour permettre effectivement la mise en œuvre de la police nationale en ce qui concerne sa restructuration telle que voulue par la loi, donc la loi organique à ce sujet. Et donc ici, cette loi donne des tranches de budget que le gouvernement doit faire des efforts pour mettre à la disposition de la police année par année, depuis 2014, 2015, 2016 et à 2017. Et donc ça va lui permettre, donc la nature des dépenses irrelatives sont également précisées Et alors, année par année, le gouvernement viendra par devant notre chambre pour présenter la réalisation au regard des moyens mis à sa disposition et de nous permettre également de contrôler si les objectifs ont été effectivement réalisés, c'est-à-dire si les dépenses ont été réalisées correctement et conformément à certaines dispositions en ce qui concerne la passation des marchés et les acquisitions majeures.
Et les auditeurs ont beaucoup insisté sur le fait, d'abord ils ont salué le fait déjà d'avoir cette loi sur la programmation, mais en écoutant les uns et les autres, nombreux ont insisté sur l'équipement qu'il faut, l'infrastructure qu'il faut pour la police, mais il y en a aussi qui ont insisté sur la formation. Mais beaucoup ont les soucis de voir tout cela appliqué et un suivi, un contrôle. Mais par rapport au suivi, est-ce que c'est le texte lui-même prévoit le mécanisme des suivis pour qu'on se rende compte effectivement que les dépenses ont été exécutées correctement et l'argent, le budget a été vraiment exécuté pour le besoin?
Pour le suivi à son article 6, je voudrais vous donner lecture de ce que nous avons prévu. Le gouvernement présente chaque année, lors du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, un rapport sur l'exécution des prévisions budgétaires de l'exercice en cours. Et donc voilà, là, les mécanismes qui permettent de contrôler, de vérifier et tout ça. Donc si dans le cadre des contrôles parlementaires et le Parlement, parce qu'il s'agit ici de problèmes financiers, et la Cour des comptes qui est techniquement rattachée au Parlement pour ce genre de missions, et donc lorsque la Cour des comptes descend sur le terrain, je crois que l'Assemblée nationale, le Parlement, grosso modo, sera donc tenu informé de l'exécution de cette réforme de mise en œuvre par rapport aux dépenses prévues.
Et les auditeurs ont beaucoup insisté sur la formation. Vous avez parlé de l'acquisition des équipements, on a parlé de l'infrastructure, mais est-ce que le volet formation, qui est aussi un volet clé dans la réforme de la police, est prévu aussi dans ces dépenses au niveau de cette loi?
Justement, la formation, donc la formation, elle est continue. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur nous a même, au cours du contrôle parlementaire, rassuré que très bientôt, on allait procéder au recrutement tel que précisé dans les statuts du policier, en ce qui concerne les critères de recrutement. Et donc, c'est permanent, parce qu'il faut rajeunir continuellement. Nous voulons voir une police professionnelle, une police donc où tout le monde sait faire son travail à tous les niveaux possibles. Et donc, il suffit seulement de visiter les statuts des policiers qui complètent la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale pour s'en rendre compte. Et donc, en ce qui concerne la formation, tout est bien précisé dans cela. Il y a même des écoles qui sont contenues ici, chacune de ces écoles, de ces grandes écoles de la police nationale, ayant donc des missions spécifiques pour la formation professionnelle du personnel militaire, pardon, de la police nationale. Et il est vrai que les équipements et les acquisitions ici, parce qu'il faut des infrastructures, il faut moderniser la police. Et c'est pourquoi, année par année, on a prévu une tranche pour permettre à la police donc de réaliser les objectifs. Donc, parce qu'il y a un plan qui viennent compléter cela. Vous savez que la loi, donc le plan qui est adopté par le gouvernement, et donc en ce moment-là, lorsque les moyens financiers sont mis à disposition, il n'y a qu'à passer pour la réalisation. Et bien entendu, cette réalisation, devoir de rendre compte, et donc le contrôle est assez indiqué et de manière rigoureuse pour le suivi, de façon qu'on ait une police vraiment civile et responsable.
Nous avons un patient qui est à Lubumbashi, Albert Akananga, et Michel qui est à Goma, mais il y a d'abord cette préoccupation, au-delà des textes juridiques pour accompagner la réforme de la police, mais dans les faits, et si on peut avoir peut-être une petite évaluation depuis que le procès a été lancé en 2012, comme vous l'avez dit, quelles sont les grandes réalisations, si on peut dire, ou les avancées par rapport à la réforme de la police, au-delà de textes juridiques, bien sûr.
Mais nous suivons, il faut que nous soyons regardants par rapport à ce que les médias arrosent, mettent à la disposition de certaines informations. Nous suivons la formation de la police à travers donc une structure spécialisée pour cela, des unités formées, et donc que ce soit dans le cadre du maintien de la paix et d'autres aspects.
que nous ne pouvons pas négliger. Mm-hmm. Et donc, même ici à Kinshasa, il y a des écoles spécialisées, notamment en ce qui concerne les investigations criminelles. Et donc, tout cela, il faut des infrastructures appropriées, je veux dire, et que ces écoles ne soient pas seulement regroupées toutes ici à Kinshasa, il faudrait également pouvoir les orienter en province pour faciliter à désengorger la vie de Kinshasa de certains de ces écoles.
Voilà, merci beaucoup. On va revenir à vous, le temps d'écouter Patient qui était déjà en ligne de Lubumbashi. Patient, vous êtes avec nous, bonjour. Patient, vous êtes à Lubumbashi.
Je vous remercie, les journalistes Pierrot.
Voilà, merci de votre patience pour quelques minutes, le temps d'avoir plus de précisions avec notre invité. On revient à vous, vous étiez en train déjà d'intervenir, Patient, complétez votre idée.
Oui, Monsieur Pierrot, quand je vous parle ici à Lubumbashi, c'est avec beaucoup de regrets. Je regrette. Nous, on nous avait dit que le rôle de la police, c'est de garder les gens et leur bien. Mais cette fois-ci, la police est devenue l'ennemi de la population. Pourquoi? Parce que tous ces gens que vous entendez parler, les bandits armés là, ce sont nos policiers. Pourquoi? Les bandits armés, nous tous, nous savons que c'est l'État qui possède les armes blanches. Mais quand les bandits ont des armes, ils les ont trouvées où? Donc, ce sont nos policiers qui contribuent à ces problèmes. Alors, moi, je vais surtout me baser sur le recrutement. Monsieur Pierrot, est-ce que vous pensez qu'on peut recruter un voleur et quand on le recrute, il devient quelqu'un là qui peut travailler bien? Quand on recrute un voleur, même quand il devient policier, il est toujours volé. Alors, il faut savoir comment recruter les gens, puisque la population, la police est là pour garder la population, garder leurs biens. Mais cette fois-ci, on recrute n'importe qui. Il n'a pas un niveau d'être policier. Il ne convient pas pour être policier. Il est policier, puisqu'il est cousin d'un général, puisqu'il est cousin d'un capitaine. Il doit être policier. Donc vous voyez que cela ne va pas, M. Pierrot. Alors la question que je vais poser maintenant à notre invité pour terminer, est-ce qu'un OPJ peut garder dans son cachot ou n'importe où, ou dans sa petite maison, quelqu'un, un détenu, une semaine ou au-delà de 3 jours, 4 jours? Ou bien on a changé la loi? Alors, voilà ma préoccupation, M. Pierrot et la
Médie. Merci beaucoup.
C'est allé où Israël pour y en passant.
Merci beaucoup, patient. Vous insistez sur le recrutement. Pour vous pensez qu'il y a beaucoup de cas de criminalité qui sont causés dans nos villes par des hommes armés. Vous pensez que parmi ces hommes armés se trouve la police parce que ce sont eux qui ont des armes. Mais il faut aussi vérifier cette information. Hein. C'est que vous avez dit, vous êtes à Lubumbashi. Mais vous estimez qu'il faut beaucoup plus être regardant dans cette réforme. Il faut beaucoup plus être regardant en ce qui concerne les recrutements. Savoir qui on doit recruter, il a quel niveau pour éviter des gens. Par exemple, des voleurs, les gens qui n'ont rien à faire dans la vie, qui pensent qu'ils peuvent aller se déverser dans la police. Et là, leur nature ne va pas changer. Quand bien même ils auront porté la tenue, ils auront l'arme, ils vont rester toujours dans la nature qu'ils avaient. Vous insistez beaucoup sur les recrutements. Merci beaucoup, patient. Nous avons Michel qui est à Goma, dans la province de Nord Kivu. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, la radio Okapi.
Michel, nous parlons de cette loi qui a été votée. Nous attendons la promulgation et son impact sur l'amélioration du travail de la police. Quel est votre point de vue?
Oui, tout d'abord, je salue la bonne volonté pour obtenir une police professionnelle moderne. Je salue cette volonté. Mais mon inquiétude se trouve au niveau de l'exécution. Parce que vous allez comprendre que les vrais problèmes que nous avons dans notre pays, ce n'est pas tout simplement l'absence des lois. Nous avons des lois, mais il se pose plutôt un problème d'exécution. Parce que si nous prenons même dans d'autres secteurs, c'est le cas par exemple du secteur de l'éducation, nous allons comprendre qu'il y a des normes sur par exemple les traitements, les paliers des enseignants, ainsi de suite. Mais ces lois ont été déjà votées, mais sont là. Les problèmes se posent au niveau de l'application. Alors c'est là où exactement se trouve mon inquiétude et je ne vois pas comment est-ce que c'est maintenant le secteur de la sécurité qui va bénéficier, si ce soit des moyens, ainsi de suite. Mm-hmm. Alors quelle est ma contribution maintenant? Moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui dans notre pays se trouve au niveau des moyens. Et là, je précise, c'est l'économie. Parce que je trouve ça comme les monteurs. Prenons par exemple ici à Goma, là où je suis. Lorsque vous prenez l'axe 5 pour aller, partout là-bas, il y a des policiers. Hein? On appelle ça les faire les rapports. Donc avant de passer la moto, soit ça va donner 200 fois, 500 fois, ainsi de suite. Mais lorsqu'on essaie d'analyser cette façon de faire, des fois je me pose la question, est-ce que si ces policiers avaient un bon traitement, est-ce qu'il allait se comporter comme ça? Est-ce que lui n'a pas besoin de sentir la dignité humaine? Alors vous avez remarqué que lorsque vous regardez les traitements, ce sont des traitements insignifiants, donc impossible de leur permettre de boucler les deux bouts du mois. Alors vous comprenez que c'est un véritable problème. Alors s'il faut prolonger les raisonnements, on peut également se dire, est-ce que c'est aussi un État qui a les moyens et qui refuse de payer les policiers? Vous allez comprendre que l'État aussi, quelque part, il a aussi des problèmes. C'est-à-dire parce que notre économie n'est pas en développement, notre économie, si on essaie d'analyser, ça traîne. Alors c'est ce que vous voyez, que c'est un problème purement systémique, de telle enceinte que c'est focalisé seulement sur un secteur, ou bien voter une loi et attendre un résultat. Bon, je ne suis pas du tout, je suis optimiste et je veux bien le développement, je veux bien la transformation.
Merci,
mais
merci.
Comme je dis, c'est tout au niveau où nous avons des lois et que le vrai problème demeure le problème d'exécution. Exécuter.
Merci beaucoup, Michel. Vous avez d'abord salué déjà le fait qu'on puisse avoir cette volonté de professionnaliser notre police, mais vous insistez sur l'exécution de lois. On peut en avoir autant, mais si on n'a pas la volonté d'exécuter et qu'on puisse avoir des moyens nécessaires, on ne peut pas réussir à professionnaliser notre police. Merci beaucoup, Michel. Albert, vous êtes à Kananga, au Kasai Occidental. Bonjour. Albert, vous êtes avec nous. Bonjour. Albert, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre Salbert, mon nom est depuis Kananga. Oui.
Oui, vous avez suivi les uns et les autres, on tend vraiment vers la fin de l'émission. Pensez-vous vraiment qu'avec la volonté, les moyens nécessaires, la mise en application de cette loi, ça peut vraiment contribuer à améliorer le travail de la police, comme ont pensé les compatriotes?
Bien sûr, bien entendu, je salue vraiment les intervenants, ils ont vraiment évoqué de bonnes choses là. C'est ce qu'il faut réellement faire de la part de nos dirigeants.
Mm-hmm.
Aussi, le changement de mentalité et la conscience politique de M. Pierrot. Il faut qu'il y ait le changement de mentalité de la part de nos dirigeants pour un peu changer les choses. Parce que dans ce pays, on semble voir que on est vraiment, il y a des lois qui se votent jour au jour, mais dans l'applicabilité, vraiment,
même problèmes
que c'est toujours comme ça, comme toujours, parce qu'on est vraiment habitué. Je peux dire qu'on est caractérisé par ce genre de choses.
Mm-hmm.
Alors, j'ai demandé à notre invité, bien, j'aimerais poser la question à notre invité, est-ce que dans ce pays comme le nôtre, faut-il avoir des institutions fortes pour se développer, ou bien des hommes forts pour se développer? Parce que quand on constate, vous-même, vous êtes sûr, qu'est-ce qu'il faut? Et s'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir l'une des choses que je viens d'expliquer pour vraiment se développer?
Merci, merci beaucoup.
Je pense à toujours à notre problématique du jour, M. J.R. de Pierrot. La réforme de la police, c'est pas quand moi je lis une rubrique de la réforme de la police, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vite compris que si on appliquait ça, en tout cas, on va ressusciter la police et notre pays aura une vraiment forte et qui mérite quand même si on...
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Albert, parce que là, il y a beaucoup de gens qui se bousculent sur notre standard. Vous avez insisté sur la volonté de pouvoir appliquer la loi et vous pensez même, d'ailleurs, vous l'avez dit, que dans la réforme de la police, il y a beaucoup d'innovations. S'il faut mettre cela en pratique, ça peut résoudre le problème d'avoir une police professionnelle. Vous avez demandé à notre invité si nous avons besoin des hommes forts ou nous avons besoin des institutions fortes. On va lire ce message rapidement de Prince Kay qui nous a écrit des Bukavu qui dit ceci: notre gouvernement a beaucoup de lois, l'essentiel aujourd'hui pour nous c'est pas des paroles qui sont dans la loi mais c'est le fait de pouvoir les mettre en pratique qui peut résoudre le problème de la police. Il y a Jérémy Kibali qui nous a écrit des Sakés dans le Massissi. C'est une bonne nouvelle pour la police nationale congolaise et nous la population, nous avons besoin d'une police qui joue son rôle effectivement pour pouvoir nous sécuriser, mais à condition qu'on puisse mettre en pratique ce qui est écrit, tout ce qui est dit dans cette loi. Arafat Chamuta dit ceci: la loi c'est une bonne chose. Mais le mieux serait de mettre cela en pratique. Voilà, autant d'auditeurs sont revenus sur le souci de mettre la loi en pratique. Avant d'écouter les derniers auditeurs, nous revenons à vous, l'honorable Mohamed Boulay. Vous avez suivi les uns et les autres, on tend vraiment vers la fin de l'émission. Il y a beaucoup de préoccupations par rapport à cette réforme de la police. Les auditeurs sont quand même heureux qu'on puisse avoir toute cette volonté, les textes juridiques pour accompagner et tout cela. Mais vous, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, quelles sont les actions concrètes qu'il faudrait prévoir pour effectivement accompagner cette volonté du gouvernement et qu'on puisse réussir? Parce qu'enfin, tout, c'est les résultats. Le fait qu'on ait commencé, mais qu'on ait les résultats à la fin. Quelles sont les actions au niveau de que ce soit à l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, pour pouvoir accompagner vraiment cette programmation de la réforme de la police?
Mais pour accompagner cette programmation de la réforme, vous savez que chaque mois, disons pendant les vacances parlementaires, tous les députés vont chacun dans sa circonscription électorale et d'ici une journée de manière ininterrompue pendant un mois. C'est pour ramener les rapports qu'il a à la base en ce qui concerne la façon dont la police exécute ses missions, les plaintes ici et là, et tout cela est consigné individuellement dans les rapports de vacances parlementaires qui est exploité et les recommandations assorties et adressées donc au gouvernement. Quant à ça. Mais je voudrais pour certains intervenants de tout à l'heure, celui de Lubumbashi en particulier, je crois qu'il ne faut pas à chaque fois généraliser les cas que voilà, ce sont les policiers qui sont les fournisseurs, sans autre précision. Il faut être précis, il ne faut pas généraliser pour dire que les policiers sont à l'origine des distributions des armes. Vous savez qu'ici en Afrique, nous avons 5 pays qui produisent les armes. Je ne suis pas en train de faire ici, les défenseurs des diables, mais s'il y a des cas avérés, évidemment les policiers sont justiciables devant les juridictions militaires. Mais il faut apporter l'affaire, il faut dénoncer avec des précisions, être concis et clair. Mais dire de manière générale que ce sont les policiers, je ne la comparerai pas dans ce genre d'affirmation. Il faudrait que, s'il a de preuves, mais qu'il s'approche auprès de l'auditeur militaire des garnisons qui est dans le coin, pour déposer plainte contre X policiers qui est de pouvoir généraliser cela. En ce qui concerne les conditions de travail, je suis heureux que un des intervenants a parlé. Vous savez que les statuts ici, bien que voluminé, a prévu tout ce qu'il faut, la catégorie des policiers de carrière et aussi en ce qui concerne les conditions générales de recrutement.
Oui.
Mais ces conditions générales, être de nationalité, 18 ans révolus, célibataire, bonne moralité, jouir de la plénitude et surtout fournir un extrait du casier judiciaire, fournir les titres scolaires requis. Il ne suffit pas seulement de dire que je fais 6 ans post-primaire sans pouvoir donner la preuve du papier en question. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis gradué. Nous voulons justement au départ, à partir du recrutement, qu'on ait des bons éléments. Pourquoi la moralité? Mais on ne doit pas aller recruter des voyous comme quelqu'un l'aurait dit. Mais il faudrait également que les autorités au niveau des communes, au niveau des territoires, puissent effectivement contribuer, accompagner la commission de recrutement pour avoir de bons éléments lorsque cette commission se présente quelque part, comme nous avons vu par devant certaines communes ici, où il y avait des déploiements de pancartes pour encourager les jeunes gens à se faire recruter. Voilà que maintenant nous avons une police nationale congolaise. On a eu beaucoup de temps, nous avons passé des étapes de la force publique avec la gendarmerie après la police nationale et puis la police qui faisait partie et la gendarmerie, la police partie des forces armées. Maintenant, on veut dissocier les choses pour avoir une police nationale congolaise en plus de l'armée pour que chacune de ces forces, disons de ces institutions, puisse faire leur travail. Les uns pour rechercher des infractions, accompagner, assurer le maintien de l'ordre, et les autres pour assurer la protection de l'intégrité du territoire national.
Permettez qu'on écoute, honorable, permettez qu'on écoute les derniers auditeurs, on va lui donner juste 30 secondes parce que là on est bousculé par le temps pour
tout
conclure.
À fait.
Oui, William, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
Excusez-nous, William, parce qu'on est bousculé par le temps. En 30 secondes, votre point de vue, on va permettre à notre invité de pouvoir tirer une conclusion générale.
En tout cas, merci beaucoup pour la parole et salut aussi notre invité du jour. Ce que je voulais dire aussi, c'est, je voulais saluer notre, selon le programme de la modernité de notre police et de notre pays. Et la question où je voulais aussi poser est quelle est la condition qui est là pour le niveau d'études des agents de la police, donc leur niveau d'études et comment est-ce que ça va se procéder dans toutes les provinces.
Merci. Merci beaucoup, William. Vous voulez savoir les conditions d'études, à partir de quel niveau on peut entrer dans la police. On revient à vous, honorable Mohamed Boulé, parce que là, on n'a que deux minutes, vraiment deux minutes, pour terminer cette émission.
Je peux les rassurer et les renvoyer tout simplement à la loi numéro 13-0013 du 1er juin 2013, portant statut du personnel carré de la police nationale congolaise. Tout ce qu'ils demandent se trouve bien contenu au titre en ce qui concerne les recrutements, et il peut certainement trouver de bonnes réponses en ce qui concerne les niveaux d'études catégorie par catégorie de ce que les policiers doivent faire selon qu'il est de telle catégorie, parce qu'il y a ici, je voudrais tout simplement dire qu'il y a la catégorie A1, A2, la catégorie B, C, D et E. Donc E, ce sont les agents de police. D, ce sont les brigades, les brigadiers de police. C, ce sont les sous-commissaires de police. B, ce sont les commissaires de police. A, D, ce sont les commissaires supérieurs de police. Et A1, ce sont les commissaires divisionnaires de police. Et là-dedans, à l'intérieur, on trouve toutes les conditions pour accéder à ces différentes catégories.
Mais malheureusement, comme on est bousculé par le temps, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion par rapport aux soucis, aux inquiétudes aussi de la population?
Je voudrais, parce que toutes ces lois ici que nous produisons, il y en a beaucoup. Et il ne faudrait pas dire, parce qu'il y en a beaucoup, qu'on ne peut pas donc en prendre connaissance. Tout citoyen est censé connaître cette loi-là. Parce qu'une fois que la loi est promulguée par le chef de l'État, et une fois qu'il est publié au journal officiel, 30 jours après, cette loi devient opposable à tous. Que vous soyez à Lubumbashi, que vous soyez à Mutuanga, que vous soyez à Buta chez moi, et donc vous êtes censé connaître cette loi. C'est pourquoi nous Congolais, nous devons avoir cette culture de prendre connaissance de nos lois, parce que nous comme députés, nous sommes mandatés par la population. Lorsque nous adoptons ces lois, il faudrait, pour la vulgarisation, que le gouvernement les fasse, mais qu'à chaque individu puisse aussi s'en approprier.
Merci beaucoup, honorable Mohamed Boulé, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve demain à 10h03. Nous allons parler de ces programmes lancés par les gouvernements, la réhabilitation, n'est-ce pas, des hôpitaux, des centres de santé à travers le pays. Le gouvernement prévoit plus ou moins 5400 établissements sanitaires qui sont concernés par l'opération des viabilités. Pour vous, les auditeurs, que proposez-vous pour la réussite de cette opération? On se retrouve demain à 10h03, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés dans cette émission. Au revoir.